L'économie rencontre la littérature. Aujourd'hui, nous partons pour la Russie des tsars et des serfs, avec en poche l'œuvre d'un écrivain hanté par la question de l'argent. Dans ses romans, il raconte les tensions qui agitent la société russe du 19e siècle, en route vers l'industrialisation, et il s'oppose au capitalisme naissant. C'est avec l'auteur de L'Idiot, des frères Karamazov et de Crime et Châtiment que nous allons passer l'heure qui vient. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. L'économie, selon Dostoïevski, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir autour de la table Karen Haddad, professeure de littérature comparée à l'Université Paris-Nanterre, et Michel Tissier, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Rennes 2 et auteur de L'Empire russe en révolution chez Armand Collin, une émission imaginée par Aliette Ovin, Thibaut Moméja, Mathilde Tonfourcade et Théo Giangreco.
Vous dites que des trois esprits les plus considérables, à savoir Nietzsche, Ibsen et Dostoïevski, le plus important est peut-être Dostoïevski.
Oui, je le crois encore.
Vous le croyez encore?
Je le crois encore.
Lorsque vous lisiez Dostoïevski, est-ce uniquement pour des raisons d'art ou des raisons de psychologie que Dostoïevski vous avait requis? Où étiez-vous sensible déjà à ce moment-là au caractère vraiment prophétique de certaines parties de son œuvre?
Oui, je crois que j'étais assez sensible à ce caractère prophétique, mais à vrai dire, ce n'était pas celui qui m'intéressait le plus. Mais il fallait les événements historiques qui suivirent pour nous montrer à quel point Dostoïevski avait été une sorte de visionnaire de la réalité profonde.
Karen Haddad et Michel Tissier, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va tenter de comprendre tout au long de cette émission en quoi Dostoïevski a été visionnaire, selon les mots d'André Gide, dans cet archive de 1949. Mais d'abord, Michel Tissier, quel est le contexte politique, économique en Russie lorsque le petit Fiodor voit le jour en 1821?
Alors, en 1821, nous sommes sous le règne du tsar ou de l'empereur Alexandre Ier. Et la Russie d'Alexandre Ier, à ce moment-là, c'est une très grande puissance européenne qui a pris une place considérable à la suite des guerres napoléoniennes et de la victoire finale sur Napoléon. Et c'est une la personne du tsar, de l'empereur, est véritablement une grande figure européenne, on pourrait dire de la géopolitique européenne, mais c'est un tsar autocrate en même temps. C'est l'empereur autocrate et ça veut dire que son pouvoir ne se partage pas. Donc les conditions politiques de cette Russie impériale en 1821, ce sont des conditions qui paraissent de plus en plus en décalage avec une bonne partie de l'Europe, en tout cas avec les grands pays d'Europe occidentale, comme le Royaume-Uni et même la France de la Restauration.
Et c'est un dirigeant qui a déçu Alexandre Ier, puisqu'il y avait des réformes sociales qu'il avait promises lorsqu'il s'entourait de l'intelligentsia libérale de l'époque, et finalement l'abolition du servage et la reconnaissance des droits politiques de tous les Russes. Ces réformes-là n'ont pas eu lieu, Michel Tissier.
Alors, il y a une désillusion en termes de réformes sociales, de réformes politiques aussi. C'est-à-dire que l'empereur autocrate est un empereur de droit divin. Son pouvoir est absolu et il refuse toute constitutionnalisation de son système politique, en tout cas à l'échelle vraiment de l'Empire, même si il n'a pas été absolument adversaire de toute idée de constitution. Alors, on le voit en Pologne, par exemple.
Alors, c'est dans cet univers que naît Fiodor Dostoïevski à Moscou, donc en 1821. Il naît dans une famille qui est noble, mais désargentée, Karen Haddad.
Oui, alors, c'est une famille qui n'a jamais vraiment connu l'aisance. En fait, c'était une famille de prêtres à l'origine, et le père des frères Dostoïevski a réussi à inscrire ses enfants dans le registre de la noblesse. C'est-à-dire que c'est important parce que Dostoïevski va être perçu comme un, gentilhomme. Par exemple, quand il est au bagne, il le dira, nous, on est des messieurs et les forçats nous méprisent pour ça. Mais ça ne veut absolument pas dire que ça s'accompagne d'une richesse quelconque.
Et ce n'est pas aussi prestigieux que la noblesse terrienne, à laquelle appartiennent de nombreux écrivains de l'époque.
Voilà, c'est la différence essentielle que Dostoïevski va rappeler vraiment jusqu'à la fin de sa vie, que lui n'est pas un écrivain comme les autres, les comtes, Tolstoï en particulier. Et il a toujours cette formule. On lui attribue la formule écrivain prolétaire. En tout cas, il ne cesse de répéter que tout ce qu'il a, c'est son nom et sa plume. Voilà. Son nom, c'est-à-dire son nom d'écrivain.
Le père de Dostoïevski est médecin. Il s'est affranchi de cette condition de prêtre de la famille, mais il est médecin dans un hôpital pour personnes pauvres. Il y a donc peu d'argent dans la famille. Et plus largement, ce qu'on peut dire de cette société russe à l'époque, Michel Tissier, c'est que c'est une société agraire. La majorité de la population est paysanne, mais il faut peut-être préciser que tous les serfs ne sont pas logés à la même enseigne.
Oui, alors tous les serfs, ceux qu'on appelle les serfs, ce sont les paysans, mais aussi les domestiques, et éventuellement aussi des gens d'origine paysanne, mais qui vont travailler dans des manufactures, qui sont au pouvoir des seigneurs, donc de cette noblesse qui possède des domaines, et ces domaines sont peuplés. Alors, donc, d'un point de vue juridique, on peut dire que, malgré tout, les serfs, il y a une communauté de conditions, on peut dire, de ces serfs seigneuriaux. Mais il y a de très grandes disparités, en fait, à l'intérieur des situations.
Entre ceux qui sont soumis à la corvée et ceux qui payent au seigneur une redevance en argent.
Par exemple, ça c'est une différence qui a beaucoup intéressé les historiens de l'économie et qui est aussi très spatialisée, sans être, comment dire, ce n'est pas figé dans le temps. Il y a eu aussi des évolutions dans la répartition entre les deux types d'obligations, mais il y a encore beaucoup d'autres situations, d'autres différences, je veux dire, qui se constatent, si vous voulez, d'un domaine à l'autre, d'une région à l'autre aussi, selon la proximité avec les marchés urbains, selon le caractère fertile ou non de la terre, et puis aussi selon les pratiques domaniales Après, il y a aussi des serfs qui sont encouragés par leurs propres seigneurs dans les régions où qui ne sont pas particulièrement agricoles à aller s'embaucher et faire du commerce
et à reverser une partie de ce qu'ils ont gagné.
Voilà, ils ont toujours des obligations vis-à-vis de leur maître, mais certains serfs peuvent devenir extrêmement riches. C'est une exception, bien sûr, mais ça existe.
Alors, dans la famille Dostoïevski, la question de l'argent est présente dès le début. Le père de Dostoïevski, on l'a dit, est très pauvre et c'est pour cela qu'il envoie Fiodor et son frère Mikhail à l'école centrale du génie de Saint-Pétersbourg dans l'espoir qu'ils obtiennent un poste stable avec des avantages financiers, Karen Haddad.
Oui, oui, il s'agit de faire financer leurs études. Alors, le père de Dostoïevski n'est pas riche, mais il est surtout très avare et c'est surtout ce qui est très frappant dans le début de la correspondance, enfin les premières lettres qu'on a de Dostoïevski à son père. Ça commence là, des constantes demandes d'argent. Et là, le reste de la famille va constamment demander de l'argent au père. Enfin, c'est vraiment présent dès le début. Et lorsqu'il est à l'école d'ingénieur, Dostoïevski, par exemple, écrit à son père pour lui demander de quoi acheter une paire de bottes, de quoi se ranger ses affaires, enfin des choses vraiment indispensables, en expliquant à chaque fois que c'est pas du tout du luxe, mais pour maintenir son rang au milieu des autres élèves, dont il se sent évidemment méprisé.
Ce à quoi son père lui répond, ce qui menace est non seulement la ruine, mais une complète famine. Après cela, peux-tu continuer à reprocher à ton père de ne pas t'avoir envoyé de l'argent ?
Oui, il y a une certaine exagération de la part du père, en effet. Mais de toute façon, après, je dirais presque jusqu'à la fin de sa vie, Dostoïevski a toujours réclamé de l'argent aux autres. Enfin, il a toujours été en manque d'argent. Enfin, c'est vraiment frappant.
On va voir que c'est une constante tout au long de sa vie. En effet, alors Dostoïevski est très tôt obsédé par la question du servage et il en fait le sujet de son tout premier roman, Pauvres gens, publié en 1846. Dans l'extrait que vous allez entendre, un vieux fonctionnaire, Dievouchkine, écrit à une jeune fille pour laquelle il s'est pris d'affection et qui s'apprête à partir à la campagne avec son mari.
Varinka, ma petite mère, ma tourterelle, mon adorable Varinka. On vous emmène, vous partez. Oh, ils auraient mieux fait de m'arracher le cœur de la poitrine plutôt que de vous éloigner de moi. Vous doutez-vous seulement de ce qui vous attend là-bas, là où vous allez maintenant, ma petite mère? Peut-être l'ignorez-vous encore. Demandez-le-moi en ce cas. Vous ne verrez autour de vous que des steppes désolées, ma chère amie. Des steppes, des plaines nues s'étendant à l'infini. De la terre nue comme la paume de ma main. Les paysannes qui vivent dans ce pays sont insensibles, dures, et les moujiks grossiers sont ivres tout le temps. Les arbres ont perdu leurs feuilles en cette saison. Il y pleut, il y fait froid, et c'est là que vous allez. Passe pour Monseigneur Bikov qui a de quoi s'occuper, il vivra avec ses lièvres. Mais vous, vous que ferez-vous? Vous tiendrez votre rôle d'épouse, d'un grand propriétaire, ma petite mère? Voyons, mon Angelet, regardez-vous. Avez-vous l'air d'une femme de ce genre? Karen Haddad, on entend ici les vices des paysans évoqués par Dostoïevski dans ce premier roman, Pauvres gens. Mais pour notre auteur, les vices évoqués ne sont finalement que le résultat de leur oppression.
Oui, bien sûr, Dostoïevski n'a pas grandi vraiment à la campagne, hein, ça vous l'avez compris, mais il a été très tôt sensibilisé à cette question, qui est quand même la question de la Russie de l'époque, enfin, chez les intellectuels de l'époque. Et c'est aussi une question littéraire, hein, c'est-à-dire que la question du servage, elle est abordée dans Les âmes mortes de Gogol, par l'absurde, parce qu'il s'agit de faire des trafics de cerfs, enfin... dans les mémoires d'un chasseur de Tourguenieff, très important. Et donc, c'est vraiment la question cruciale. La Russie de cette époque, enfin, à l'époque de l'abolition du servage, hein, du point de vue intellectuel, il y a quand même un grand espoir d'obtenir des libertés fondamentales. Et la question du servage domine absolument tout. Hein. Ça a vraiment coupé en deux, il me semble, cette période, au moins pour la perception des intellectuels.
Vous avez évoqué l'influence de Gogol. Il faut peut-être aussi rappeler l'influence de Balzac sur ce premier roman qui est très imprégné du réalisme français, Karen.
Oui. Alors Balzac, de toute façon, Balzac, c'est une référence majeure pour Dostoïevski. Quand il était encore à l'école ingénieur, il a fait une traduction d'Eugénie Grandet, et c'est un modèle pour lui absolument central. Il faut ajouter aussi des auteurs auxquels on ne pense pas forcément, par exemple George Sand, hein, avec la représentation très justement sociale des paysans. Et puis Gogol, effectivement.
Et du côté de Balzac, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette influence littéraire et en même temps cette ressemblance entre leurs deux existences, puisque tous deux vont devoir écrire pour gagner leur vie.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, c'est justement Proust qui dit que la correspondance de Dostoïevski ressemble à celle de Balzac parce qu'elle est envahie de demandes d'argent et de promesses d'une œuvre à faire. Alors il y a beaucoup de ressemblances au sens où Balzac lui aussi a passé sa vie à échafauder des plans fabuleux pour s'enrichir, mais la différence c'est que Balzac, il me semble, accompagne quand même la naissance du capitalisme, tandis que dans le cas de Dostoïevski, comme vous le disiez, il y a plutôt une très grande opposition. Mais alors l'importance de Balzac, c'est aussi pour la représentation de l'argent, on y viendra peut-être tout à l'heure, et sur la façon dont l'argent envahit l'œuvre littéraire.
On va revenir.
C'est en cela qu'il est un modèle.
On va revenir effectivement sur cette conception de l'argent et du capitalisme financier chez Dostoïevski. Mais d'abord, vous le disiez, c'est une question centrale que celle de l'abolition du servage en Russie chez les intellectuels. Alors sur quoi s'appuient ces demandes d'abolition? Notamment, Michel Tissier, sur cette idée que le travail forcé ne serait pas assez productif?
Alors, ça peut être le cas. Pour Dostoïevski et pour les jeunes de sa génération, puisqu'on se situe dans les années 1840 ici, c'est cette dimension dans la réflexion, un critère économique de productivité, n'est certainement pas la dimension principale. Pour Dostoïevski, c'est d'abord une question morale. Mmh. C'est une question morale. C'est une remise en cause de l'arbitraire qui, selon lui, et selon un certain nombre de jeunes gens de sa génération, jeunes et un peu moins jeunes aussi, caractérise les relations sociales et le pouvoir que les maîtres ont sur les serfs. Alors, il est vrai que la question de l'ordre économique, on peut appeler ça comme ça, est aussi une préoccupation dans la Russie des années 1840.
Notamment dans les milieux manufacturiers russes.
Dans les milieux manufacturiers russes. C'est aussi une préoccupation qu'on trouve d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un système autocratique, donc au sommet de ce régime, chez l'empereur Nicolas Ier lui-même, qui est le frère qui a succédé à Alexandre Ier.
Parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de la meilleure voie vers la prospérité en Russie, à un moment où on observe l'Europe qui accélère son industrialisation.
Absolument. Il faut dire cependant que le régime intérieur russe fait que ces discussions sont elles-mêmes limitées d'une certaine façon, puisque on faisait la comparaison avec Balzac. Une grande différence malgré tout, c'est la place de la presse dans la société, hein, qui n'est pas symétrique du tout de ce qu'on trouve en France à la même époque ou au Royaume-Uni. Même si la notion de la censure est quelque chose aussi qui existe dans ces différents pays, et le régime de la censure est malgré tout différent. Donc, il y a des réflexions, mais ces réflexions, et ça affecte aussi la période de formation de Dostoïevski, ce sont des réflexions dont on sait qu'elles étaient orales dans des cercles, dans des sociétés plus ou moins secrètes, et ça joue. Et pour eux, en tout cas, pour beaucoup qui sont dans ces discussions, les dimensions de performance économique sont loin d'être toujours les plus importantes.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de l'industrie russe, justement, Michel Tissier, en ce milieu du 19e siècle?
Alors, l'industrialisation de la Russie, on peut la considérer sur une assez longue chronologie. Au XVIIIe siècle, on a déjà des éléments d'industrialisation, et dans la première moitié du 19e siècle, ça continue, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont très actifs et qui se renforcent, le secteur du textile dans la région des provinces centrales au nord-est de Moscou, et la métallurgie en particulier dans l'Oural.
Mais à moins grande échelle que ce qu'on observe en France ou au Royaume-Uni à la même époque.
Alors, à moins grande échelle, ou en tout cas avec des investissements qui sont relativement moindres.
Notamment parce que le système bancaire n'est pas vraiment encore développé.
Voilà, il n'y a pas de système bancaire. Enfin, il y a des banques, mais ce sont des banques d'État, et ce sont des banques qui servent surtout à financer les besoins des propriétaires. Alors, des propriétaires fonciers, même si une partie de l'activité de ces propriétaires fonciers, en tout cas pour les plus riches, est aussi une activité manufacturière qui donne les premiers jalons de cette industrialisation.
Et le servage est finalement aboli en Russie en 1861.
La Majesté, le Tsar.
Asseyez-vous, messieurs.
Messieurs les délégués de la noblesse, l'heure de la réforme est venue. Nous, empereurs de toutes les Russies, proclamons l'abolition du servage et accordons aujourd'hui la liberté personnelle à 49 millions de nos sujets.
Je le veux, je l'exige, je l'ordonne.
Vive les Russes !
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était un extrait de Katia, le long métrage de Richard Siodmak, sorti sur les écrans en 1959 avec Romy Schneider dans le rôle de cette jeune fille pauvre de la noblesse soutenant le tsar. Le servage est finalement aboli, et dans cette décision entre en ligne de compte des raisons économiques, Karen Haddad.
Alors c'est plutôt
Michel Tissier.
Je pense qu'il faut poser la question
Alors, oui, bien sûr, hein, il y a des raisons économiques ou en tout cas de recherche de productivité par l'idée que le travail libre est plus productif. Mais encore une fois, l'abolition du servage correspond à des motivations qui sont plus complexes et nombreuses. Je pense que pour répondre directement à votre question, si la motivation était la productivité du travail libre, à ce moment-là, il faudrait retrouver dans les conditions mêmes dans lesquelles le servage a été aboli, ce qui correspondrait au modèle, hein, on peut appeler ça modèle, du travail libre, des travailleurs qui vont s'embaucher, et puis aussi on aurait l'idée que la terre doit finalement revenir à un mode de production qui serait celui de la petite propriété individuelle. Donc si on parle de modèle, on a assez facilement en tête la France de l'époque avec une petite propriété foncière et des propriétaires qui sont indépendants. Or, le servage a été aboli, mais il a été aboli dans des conditions telles que c'est une bonne partie de la main-d'œuvre, pas toute, mais une bonne partie de la main-d'œuvre agraire est prise dans une structure qu'on appelle la communauté agraire. Et cette communauté agraire paysanne, au niveau du village, villageoise, elle fonctionne sur la base d'une solidarité entre ses membres. Et
pour le paiement des impôts,
voilà,
par exemple.
Pour le paiement des impôts, pour le paiement d'autres choses qui va être très très important, ce qui est ce qu'on appelle les indemnités de rachat, puisque cette paysannerie anciennement servile va devoir racheter les terres qu'elle cultive, enfin une partie des terres, parce qu'ils peuvent aussi affermer des terres, louer en fermage des terres aux propriétaires terriens. Mais en tout cas, pour celles qui vont revenir à la commune, ils vont devoir les racheter. Donc il y a toute cette solidarité, et puis aussi les lots de terres à l'intérieur de la commune sont redistribués périodiquement. Alors c'est pas dans toutes les régions de l'Empire, mais dans les provinces centrales. Donc on voit que cette réforme, en fait, elle ne correspond pas à un modèle qu'on pourrait dire libéral, celui qui permettrait l'avènement d'un capitalisme agraire, par exemple, puisque de toute façon, l'économie de la Russie à cette époque reste essentiellement une économie agraire. Hein. Il y a des linéaments d'industrialisation, mais dans cette phase-là, les années 1860, ça reste encore restreint.
Donc elle n'entraîne pas, cette réforme, un essor du commerce et de l'industrie, comme l'espérait Nicolas Ier lorsqu'il disait en 1847 devant les nobles de la province de Smolensk que justement le servage était la cause du fait, je cite, que nous n'avons pas de commerce ni d'industrie. Alors on a bien compris le caractère très autoritaire de ce pouvoir tsariste, un pouvoir auquel s'oppose Dostoïevski, et c'est pour cela qu'il va être arrêté en 1848 et condamné à 8 ans de travaux forcés à Karen Haddad.
Oui. Alors, c'est en fait à cette époque-là, Dostoïevski fréquente ce qu'on appelle le cercle Petrachevski. En fait, c'était un cercle de discussion qui n'avait rien de clandestin d'ailleurs. Et les idées qui étaient discutées correspondent à ce qu'on appelle le socialisme utopique. Hein. Donc, on parlait beaucoup de Fourier, par exemple. Et c'est un socialisme humanitaire très marqué par le christianisme. Alors, Dostoïevski, donc, suit ces activités-là. Et alors, il a été arrêté, non pas vraiment pour la fréquentation de ce cercle. Plusieurs membres de ce cercle ont été arrêtés. Ils étaient tous sous surveillance depuis longtemps. Et alors, il a été arrêté pour une raison idéologique, on peut dire, puisqu'il a été notamment accusé, lui, d'avoir lu une lettre de Bielinski à Gogol. Bielinski, c'était le grand intellectuel libéral de l'époque. Une lettre dans laquelle Bielinski critiquait le pouvoir, les prêtres, etc. Donc Dostoïevski l'a lu en public. Et il y a aussi, on les a également soupçonnés de posséder une presse clandestine. Donc ça, c'était vraiment un crime majeur. Donc oui, il a été arrêté parce qu'il était opposant au pouvoir tsariste, on
et
peut
ce,
le dire.
Et ce sont aussi les propos qu'il développe dans son premier roman « Pauvres gens » publié en 1846, puisque c'est un livre qu'il a rendu célèbre. C'est Alexandre Herzen qui est considéré comme le père du socialisme russe, qui estimait qu'il s'agissait du plus grand exemple de création authentiquement socialiste dans la littérature russe. C'est à partir de la publication de ce roman aussi qu'il se retrouve dans l'œil de Moscou.
Oui, on peut dire ça. Alors en même temps, Les pauvres gens, ça n'est pas un brûlot, hein. C'est vraiment une histoire très touchante entre ce petit fonctionnaire d'Ivouchkine dont vous citiez un extrait tout à l'heure. Disons que l'anecdote qui est très connue, c'est que ce même Bielinski, justement, a beaucoup promu le roman de Dostoïevski avec l'idée qu'en effet on avait là un nouveau Gogol, quelqu'un qui allait effectivement représenter l'opposition littéraire au pouvoir au prix de certains malentendus, puisque en fait Dostoïevski ensuite a beaucoup évolué.
Vous écoutez un chant traditionnel russe du XVIIIe siècle par la chorale du Théâtre de Chambre de Moscou, dirigée par Boris Bevner. Sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho, et nous continuons à parler de l'économie selon Dostoïevski, en compagnie de la professeure de littérature Karen Haddad et de l'historien Michel Tissier, dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Audrey Guélier. Alors on l'a dit, Dostoïevski a été envoyé aux travaux forcés à la fin des années 40 et à sa sortie du bagne, il a besoin d'argent. C'est pourquoi il renonce à écrire un grand roman à la Dickens comme il le voulait pour publier rapidement deux petits romans, Le rêve de l'oncle et Stepan Chikovo et ses habitants, Karen Haddad.
Oui, c'est une période un peu transitoire, hein, donc la question essentielle pour Dostoïevski à ce moment-là, c'est vraiment d'obtenir l'autorisation de publier. Vous voyez, quand il sort du bagne, enfin pas du bagne, mais lorsqu'il est à la fin de sa résidence forcée, hein, en Sibérie. Donc les 4 ans de travaux forcés ont été suivis d'une période d'exil en Sibérie, loin de tout évidemment et de toute vie intellectuelle en particulier. Et il dit : je suis prêt à publier sans signature ou sous pseudonyme, et s'il le faut, pour toujours. Il écrit ça en 56. Et donc, alors oui, ces ouvrages-là, il les publie assez vite. Et surtout, ce qui va marquer son retour à la vie littéraire, hein, c'est vraiment la publication des souvenirs de la Maison des Morts, puis des carnets du sous-sol, Humilié, offensé. Enfin, donc, il va revenir de façon extrêmement frappante dans la vie littéraire. Alors, quand il dit qu'il renonce à publier tel ou tel roman, hein, parfois, vous voyez, il a 1000 projets à la minute, donc il annonce un grand roman, puis finalement, il va faire un court récit pour une revue. Enfin, c'est un moment, hein, ce que vous disiez là. Voilà.
Et il est alors l'un des rares écrivains russes à vivre de sa plume, Karen Haddad.
Oui, c'est vraiment, je pense, le seul grand écrivain à vivre de sa plume. Et encore une fois, le pire pour la question d'argent est à venir, en fait. C'est-à-dire que ça n'est pas avant le bagne et même après le bagne qu'il est le plus pauvre, mais encore après.
Voilà. On va y venir, mais d'abord, Michel Tichet, lorsque Dostoïevski est de retour à Saint-Pétersbourg en 1859, c'est moins l'économie qui l'intéresse dans ses romans que le peuple et la culture russe.
Oui, je pense à Humilié et offensé en 1861. C'est intéressant parce que ce roman est publié en feuilleton au moment où le servage est aboli. Et c'est pas du tout un roman qui prend pour sujet la paysannerie, qui est d'ailleurs relativement absente hein, dans les romans, dans l'écriture romanesque de Dostoïevski. Mais ce qui est particulièrement frappant, par exemple dans Humilié et offensé, c'est le mélange social, c'est le rapport entre les différentes parties de la population, cette noblesse, dans le cas du personnage principal, enfin d'un des personnages principaux de Humilié et offensé, c'est un noble fortuné et qui est en contact avec différentes personnes, son ancien intendant avec lequel il a eu un conflit. Donc l'argent est aussi impliqué dans ce conflit et est aussi concerné par ce conflit. Et puis le narrateur qui est un écrivain qui est une sorte de double de Dostoïevski et qui lui-même n'a pas d'argent.
Mmh. Et on va voir cette obsession pour l'argent chez Dostoïevski. Déjà, ce que l'on constate et qui est important à souligner, Karen Haddad, c'est que vraiment l'argent matériel est partout présent dans ses romans.
Oui, exactement. Il est vraiment représenté. C'est-à-dire que, par exemple, chez Balzac, on voit circuler des sommes, de l'argent, chez d'autres écrivains. Mais chez Dostoïevski, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a vraiment... Alors d'abord, il y a une représentation visuelle de l'argent, des toutes petites pièces, des kopecks en cuivre, jusqu'aux billets. Alors il y a, en plus, les billets russes à cette époque, encore maintenant, sont de couleurs différentes. Alors on les appelle par leur couleur, les rouges, les bleus, et puis il y a les arcs-en-ciel qui sont des billets de 100 roubles. Donc on les voit et on peut dire même que cet argent joue un rôle dramatique dans un très grand nombre de scènes. On voit l'argent, on a une description de la matérialité de l'argent. C'est pas du tout abstrait.
Voilà. De l'argent, oui, effectivement, que l'on compte et on recompte tant il manque en permanence.
Voilà, exactement. Et donc, vous disiez tout à l'heure, on parlait de ces premiers romans, mais je pense que le roman qui représente peut-être le plus la pauvreté, le dénuement absolu, c'est Crime et Châtiment. Parce que là, au début, enfin même dans le reste du roman, mais avant que Raskolnikov ne commette son double meurtre, on a une représentation, on sait au kopeck près ce qu'il a dans sa poche et ce qu'on peut faire avec. Et là, c'est vraiment... Et puis, il y a cette famille donc des Marmeladov, qui est une famille extrêmement pauvre, où là encore, on a une représentation terrifiante de la pauvreté et chiffrée. Voilà.
Allez, justement, je vous propose d'écouter un extrait de Crime et Châtiment qui est publié en 1866, extrait lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
C'est une longue histoire, Advotia Romanovna. Il y a là, comment vous dirais-je, une théorie qui autorise, par exemple, à commettre une mauvaise action partielle si le but principal est bon. Une seule mauvaise action est sans bonne. Il est vrai aussi qu'il est vexant pour un jeune homme pourvu de mérite et d'un incommensurable amour-propre de savoir qu'il lui aurait suffi de 3000 roubles, par exemple, pour que son avenir s'agence d'une toute autre façon et de s'apercevoir qu'il n'a pas ces 3000 roubles. Ajoutez à cela l'irritation provenant de la faim, du logement trop étroit, des vêtements en loques, de la vive conscience de sa position sociale et aussi de la situation de sa sœur et de sa mère. Mais surtout la vanité, l'orgueil et la vanité. Du reste, Dieu sait peut-être qu'avec de bons sentiments... Je ne l'accuse pas, n'en croyez rien. D'ailleurs, ce n'est pas mon affaire.
Karen Haddad, cette somme de 3000 roubles évoquée ici dans Crime et Châtiment est une constante dans les romans de Dostoïevski. Elle fait écho à sa vie d'écrivain.
Oui, absolument, parce que je vous disais, le pire est à venir, c'est-à-dire que après son retour du bagne, Dostoïevski a dû, après la mort de son frère, éponger toutes les dettes laissées par son frère, soutenir sa famille, et à un certain moment, crucial. Il lui faut absolument 3000 roubles. Et c'est pour ces 3000 roubles qu'il va se vendre à un éditeur dans des conditions, enfin, dans ce qu'on appelle vraiment un contrat léonin. Et ensuite, effectivement, cette somme, elle réapparaît. C'est toujours le même chiffre. C'est tout à fait fascinant. Alors, dans Crime et Châtiment, où effectivement, c'est ces 3000 roubles qui manquent à pense-t-il à Raskolnikov, mais jusqu'à la fin, jusqu'au frère Karamazov, où c'est toujours 3000 roubles qui vont être le mobile apparent du meurtre du père, par exemple, et on la retrouve constamment. C'est une somme énorme, hein, si vous pensez encore une fois que dans Crime et Châtiment, un mois de travail d'un petit fonctionnaire, c'est 25 roubles, vous voyez. Et alors, il y a des sommes encore plus fabuleuses qui apparaissent aussi, bien sûr.
C'est intéressant, effectivement, de souligner que Dostoïevski devient ainsi la proie de ses éditeurs. La plupart du temps, Michel Tissier, ses livres sont vendus aux éditeurs avant même d'être écrits.
Oui, comme je disais, je prenais l'exemple du Minuit aux Français. Là, c'est en feuilleton, donc pour les publications, effectivement, Dostoïevski est peut-être dans les grands écrivains un des seuls à vivre de sa plume. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il fait quand même partie d'un milieu de qu'on pourrait appeler de littérateur, qui est très fourni dans les capitales, Saint-Pétersbourg et Moscou. Et on a quand même autour de lui un certain nombre de gens qui malgré tout, cherchent aussi à vivre simplement ce sont, et qui publient comme journaliste, comme publiciste, comme on disait à l'époque. Les revues de l'époque, hein, ce qu'on appelle les grosses revues, en fait, mélangent toutes sortes de publications. Et ça, c'est donc ceux qui lisent de la littérature lisent en même temps de la poésie et d'autres choses qui portent sur l'actualité internationale, ce genre de choses.
Mais ce qui peut étonner, Karen Haddad, et c'est une question extrêmement naïve, mais quand on lit Dostoïevski, on n'a pas vraiment l'impression que ces romans sont dictés par des urgences économiques. Est-ce qu'on ressent la différence entre ces différents romans selon la rapidité avec laquelle il a dû les écrire?
Alors, ça, c'est effectivement une vaste question. Parce que à la fin de sa vie, donc lorsqu'il écrit Les Frères Karamazov, donc à ce moment-là, il est avec sa seconde femme qui administre, disons, leurs affaires de façon un peu plus correcte.
À qui il dicte ses romans, notamment.
Oui, ça c'est comme ça qu'il l'a connu. Mais jusqu'au bout, il écrit dans l'urgence. Donc, est-ce qu'on voit des différences? Je ne crois pas, parce que justement, c'est cette urgence qui semble pousser Dostoïevski à écrire. Alors, il dit tout le temps, je ne peux pas travailler comme ça. Il dit, j'ai l'impression d'être encore au bagne. Je préférerais retourner au bagne que travailler dans ces conditions.
Et oui, il dit qu'il écrit à la va-vite, par nécessité, contraint et forcé.
Mais c'est faux, parce que, par exemple, il lui arrive, alors qu'il a vraiment le couteau sous la gorge à cause de ses créanciers ou des éditeurs donc, qui attendent le roman promis, il refait tout, il recommence tout. Il dit non, finalement, c'est mauvais, je refais tout, alors qu'il il meurt de faim, pratiquement littéralement. Hein. Donc ça, c'est une constante. Et il y a toujours cette idée qu'il va gâcher sa grande idée. Et cependant, je pense que c'est ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il écrit bien, voilà.
Et vous avez évoqué cette montagne de dettes qu'il hérite en quelque sorte de son frère après la mort de celui-ci en 1865. Et Dostoïevski va chercher à éponger ses dettes dans Le Jeu, comme dans Le Joueur, paru en 1866.
Je commençais par sortir Saint-Frédéric-d'Or et je l'ai posé sur le père. La roue tourna, c'est le 13 qui sortit. J'avais perdu. Avec une espèce d'impression maladive, juste pour m'en défaire et fiche le camp, je misais 5 autres Frédéric-d'Or sur le rouge. Le rouge sortit. Je misais alors les 10 Frédéric-d'Or. Le rouge sortit encore. Je misais le tout en une seule fois. C'est encore le rouge qui ressortit. Ayant reçu 40 Frédéric-d'Or, j'en misais 20 sur 12 chiffres du milieu, sans savoir ce que cela pouvait donner. Je multipliais par 3. Ainsi, avec 10 Frédéric d'or, j'en possédais 80. Un sentiment tellement invraisemblable et tellement bizarre me submergea alors, si fort, que je n'arrivais plus à le supporter. Je décidai de fiche le camp. Pourtant, je posai une fois encore tous les 80 Frédéric sur le père, et c'est le 4 qui sortit. J'en reçus 80 autres. Alors, ramassant tout le tas des 160 Frédéric, je partis à la recherche de Polina Alexandrovna.
Voilà une archive des Nuits magnétiques diffusée en 1994 sur France Culture. Comme Alexei Ivanovitch, dans Le Joueur, Dostoïevski a connu la folie du jeu, la puissance de l'addiction, Karen Haddad.
Ah oui, ça, on peut le dire. Et le joueur lui-même a été écrit donc justement à ce moment où il avait promis sur un roman. Sans quoi il se vendait pour des années à cet éditeur. Oui,
il interrompt même son écriture de Crime et Châtiment pour écrire en 27 jours, je crois,
voilà,
le joueur.
Exactement. Et c'est là, justement, qu'il rencontre sa future femme, qui est sténographe, et qui lui permet donc d'écrire beaucoup plus rapidement que prévu. Alors le jeu, ça a été, il a continué, hein, même après son mariage. Et c'est là, vraiment, sans doute, la pire période de son existence, puisqu'il est à l'étranger. Et il n'a vraiment plus rien. Il engage pour retourner à la table de jeu. Il engage tout ce qu'ils ont. Alors on dit même les bas de sa femme. Ils n'ont plus à manger. Et c'est vraiment une période terrible. Et tout à l'heure on parlait des Marmeladov, qui sont une famille d'alcooliques. Enfin, Marmeladov, pardon, d'un alcoolique. Enfin, sa famille dans Crime et Châtiment. Je pense que dans la description de l'addiction à l'alcool, que Dostoïevski n'a pas connu, on peut voir une représentation de l'addiction au jeu. C'est-à-dire que ce sentiment de sa bassesse, de son humiliation à aller dépenser, à aller boire les derniers sous les derniers copecs de la famille, ça renvoie à la façon dont Dostoïevski s'est comporté avec le jeu.
Et ce que l'on observe dans ces différents romans, c'est que les riches sont soit des usuriers, pardon, soit des héritiers. Il a une conception selon laquelle l'argent doit circuler et non pas être accumulé, Michel Tissier.
Alors, dans les exemples d'usuriers riches dans Crime et Châtiment, c'est le rôle de Alyona Ivanovna, donc qui va être la victime du crime de Raskolnikov.
Il n'y a pas de vision positive, en tout cas, d'accumulation d'argent.
De façon très très négative elle-même. Hein, et dans la fameuse biographie de Joseph Frank, qui nous donne tellement d'éléments sur la vie et l'œuvre de Dostoïevski, il est question aussi de d'un souvenir de quelqu'un qui a connu. Qui a connu Dostoïevski dans sa jeunesse et qui disait que lui-même, étant jeune étudiant, allait chez les usuriers et avait des expériences extrêmement négatives de ça.
Mais parce qu'effectivement, dans ce système, comme on l'a dit, où il n'y a pas encore de système bancaire moderne, eh bien, l'argent circule grâce aux prêts entre particuliers, Michel Tissier.
Absolument, ce sont des réseaux familiaux en partie, des relations de patronage, mais aussi, et ça a été étudié et montré assez récemment, il y a malgré tout une circulation qui est une circulation entre personnes et milieux différents. Appartenant à des milieux sociaux différents, certains issus de la noblesse, mais aussi d'autres personnes qui sont des roturiers, si on peut dire.
Et c'est une circulation de l'argent qui est encouragée par les autorités,
alors,
Michel Tissier ?
Effectivement, ce travail assez récent, qui a été fait par un historien américain d'origine russe, qui s'appelle Sergei Antonov, publié en 2016, étudie véritablement le crédit dans une ville comme Moscou, dans les années, entre les années 1840 et les années 1860. Et la thèse de ce livre est que, contrairement à ce qu'on a toujours pu penser et la façon dont on a décrit les choses pour la Russie de cette époque, il y a une forme de régulation assez souple par les autorités impériales, donc de cette Russie autocratique, qui rend relativement efficace, en fait, le système de crédit, même si, encore une fois, on est dans quelque chose qui est décrit par certains historiens comme un système informel, puisque il n'y a pas à cette époque de banques privées, hein. Il y a les banques d'État dont j'ai parlé précédemment, mais qui, elles, en fait, arrivent à la banqueroute à la fin des années 1850 à cause en particulier des conséquences de la guerre de Crimée. Et c'est seulement à partir des années 1860 qu'on va avoir la constitution d'un système de banque privée assez important.
Dostoïevski se montre assez critique à l'égard du capitalisme financier dans ses romans, sauf dans L'Adolescent, qui est peut-être l'un des moins lus de ses grands romans. Le jeune Arkady, fils illégitime d'un noble, veut devenir Rothschild dans L'Adolescent. Je vous propose d'en écouter un extrait.
J'ai du caractère. Et avec un peu d'attention, j'apprendrai n'importe quoi. Peut-on se figurer qu'avec une opiniâtreté incessante, une pénétration incessante, des réflexions et des calculs incessants, une activité et des courses incessantes, vous ne puissiez pas arriver à acquérir la science de gagner chaque jour 20 copecs de plus. Plus tard, une fois que j'aurai accumulé un millier de roubles, puis un autre, j'abandonnerai tout naturellement la commission et le petit revendage. Bien sûr, je connais encore trop peu la bourse, les actions, le travail des banquiers. Mais en revanche, je sais comme 2 et 2 font 4, que toutes ces bourses et ces banques, je les apprendrai. Et je les étudierai le moment venu comme personne au monde. Et que cette science viendra le plus simplement, juste parce que le moment de cette action-là sera arrivé.
Karen Haddad, qu'est-ce que cette lecture par Alietovine et plus largement, qu'est-ce que L'Adolescent, ce roman de Dostoïevski nous dit des évolutions économiques de la Russie?
Alors, ce que ça nous dit, c'est peut-être d'abord des évolutions de Dostoïevski, peut-être par rapport à la question de l'argent. Alors, c'est très bizarre parce que on l'a pas encore dit, mais la dénonciation de cette accumulation, de la thésaurisation comme quelque chose de mauvais, s'accompagne chez Dostoïevski d'un antisémitisme virulent, mais vraiment très violent. Dans L'Adolescent, le rêve donc de ce personnage, c'est de devenir Rothschild. Et donc c'est très frappant, il y a une vision qui semble beaucoup plus positive à ce moment-là de la richesse. Hein, mais en fait, comme le montre la citation que vous venez de lire, ce qui intéresse Arkady, c'est d'obtenir la puissance, la liberté. Et donc, dès qu'il aura atteint la richesse de Rothschild, il compte s'en débarrasser.
Il veut devenir riche pour mieux mépriser l'argent.
Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'au fond, je ne sais pas si ça nous parle tellement de l'évolution de la Russie, sinon pour le fait que, effectivement, le modèle capitaliste, sans doute, commence à se répandre et que le rêve d'Arkady repose évidemment sur l'histoire de James Rothschild qu'il a lu et qui le fascine. Mais je dirais que dans L'Adolescent, de la même façon, il y a cette apparition et cette disparition de l'argent de façon presque magique. Et puis il y a aussi le jeu. Dans L'Adolescent, il y a de nouveau l'évocation de l'argent qu'on va perdre et gagner au jeu.
Alors Dostoïevski meurt à 59 ans en 1881, un an après la publication des frères Karamazov et un mois avant l'assassinat du tsar Alexandre II. Un mot de conclusion, peut-être Michel Tissier, sur l'économie selon Dostoïevski.
Alors, l'économie selon Dostoïevski, comme on a vu, c'est un vaste sujet. Je crois que ce qui est important pour cette dernière période des années 1800, fin des années 1860, années 1870 jusqu'à sa mort, c'est effectivement la conscience du changement social et économique en Russie, notamment après l'abolition du servage, mais c'est aussi la comparaison permanente avec les évolutions de l'Occident. Et là, je crois que la vision de l'économie chez Dostoïevski, c'est forcément une vision morale. Et pour Dostoïevski, c'est une vision qui renvoie à sa conception du christianisme russe. Et de même que la question de son antisémitisme qui a été beaucoup étudiée jusqu'à aujourd'hui et qui est absolument fascinante renvoie aussi à sa conception du christianisme orthodoxe. Et en réalité, la question, le rapport à l'argent, la notion de la circulation, c'est aussi la notion de ce qu'on fait avec l'argent et de bien sûr pour Dostoïevski d'une interrogation fondamentale sur le bien et le mal.
Karen Haddad, un dernier mot sur cette conception de l'argent chez Dostoïevski.
Alors, ce sera un dernier mot littéraire, au sens où finalement, quand on voit la façon dont l'argent est représenté, hein, comme on disait tout à l'heure, ce qui m'a frappé, moi, c'est la façon dont on peut voir dans la représentation de l'argent, une métaphore ou une image pratiquement parfois des liasses de papier que Dostoïevski nous noircit constamment. Hein. C'est-à-dire que il y a cette scène dans L'Idiot, il y a cette énorme liasse de 100 000 roubles, donc qui représente des millions d'euros, si vous voulez, qui brûle et qui disparaît. Et parallèlement, il y a cette œuvre gigantesque qui s'élabore. C'est-à-dire que, vous voyez, les liasses de papier que représentent les roubles sont remplacées par les liasses d'écrit.
L'art plutôt que l'argent.
L'art plutôt que l'argent, voilà, si c'était le dernier mot.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Karen Haddad et Michel Tissier de nous avoir emmenés tout au long de cette émission dans cette Russie du 19e siècle, en pleine transformation politique, économique. Alors, je note pour les auditeurs, Karen Haddad, que vous venez de publier votre premier roman, Le Dernier Voyage de Salomon Marché, aux éditions Arléa. Merci beaucoup Michel Tissier, vous qui est venu de Rennes pour nous parler de cette histoire économique russe. Un grand merci à tous les deux.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment, votre chronique écho en partenariat avec l'Institut Veblen. Aujourd'hui, c'est avec l'économiste Isabelle Coupet-Souberain.
Pourquoi faut-il craindre une crise quand tout va bien ? Peut-être connaissez-vous la série animée « L'attaque des titans ». Dans l'épisode 1 de la saison 1, Eren Yeager dit « C'est quand on se croit le plus en sécurité qu'on est le plus en danger ». C'est exactement ce qu'expliquait Ayman Minsky dans les années 70-80 à propos des prémices des crises financières. Son paradoxe de la tranquillité énonce que c'est quand tout va bien économiquement que les agents prennent le plus de risques financiers, en s'endettant, parfois au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. À l'origine de chaque crise financière, il y a toujours cette première phase d'horizon dégagé, d'embellie portée par un boom, une invention, une découverte, une nouvelle organisation dans le travail ou autre. Par exemple, en amont de la crise financière de 1929, dans les années 20 aux États-Unis, l'application des méthodes d'organisation scientifique du travail à l'industrie automobile naissante avait fait décoller l'économie. Et tout le monde voulait investir là où apparaissaient des opportunités de profit. En amont du krach de 1987, c'est l'informatisation et son extension au secteur financier, aux bourses notamment, qui avaient ouvert de nouvelles perspectives. Avant le krach de 2000, ce fut le développement d'Internet. Avant la crise de 2007-2008, les supercalculateurs, etc. À chaque fois, le boom euphorise les agents. Ils anticipent des profits et demandent du crédit. Et plus les investisseurs se sentent en confiance, c'est bien ce sentiment que leur inspire un contexte macroéconomique tranquille, plus ils adoptent un comportement de financement risqué. Ayman Minsky distingue trois attitudes en matière de financement. L'attitude prudente est celle de ceux qui optent pour un financement couvert, en faisant en sorte que les revenus attendus de leur investissement couvre la charge de l'emprunt et l'ensemble des besoins de trésorerie à chaque période. L'attitude risquée est celle de ceux qui adoptent un financement spéculatif de leur investissement. Dans ce cas, les flux de revenus attendus permettront juste de rembourser les intérêts de la dette, mais ne couvriront le principal de la dette que longtemps après. L'attitude Ponzi, enfin, du nom d'un escroc américain d'origine italienne dans les années 20, caractérise ceux qui parient sur des projets d'investissement dont le rendement attendu peut être élevé, mais à une date éloignée et qui, entre-temps, n'engendre pas de quoi couvrir les intérêts de l'emprunt. Ces emprunteurs-là doivent refaire un emprunt à chaque période pour payer les intérêts de leurs dettes. Toujours à court de liquidités, ils sont à la merci de leurs créanciers. Pendant les phases d'expansion économique et financière ou de reprise, les comportements spéculatifs et Ponzi se généralisent et fragilisent l'économie. La dette se fait de plus en plus lourde au passif des emprunteurs. Il suffit alors que l'offre de crédit ralentisse, que les taux d'intérêt remontent pour déclencher les premières faillites. Ce qui valait essentiellement pour des entreprises non financières en quête d'investissement productif au temps de Minsky, vaut aussi aujourd'hui dans nos économies qui n'ont cessé de se financiariser depuis pour des entreprises financières en quête de rendement financier. La crise financière survient quand la défiance se généralise et que les débiteurs ne parviennent plus à se procurer les liquidités dont ils ont besoin. Dans un effet domino, les entreprises Ponzi et spéculatives se retrouvent les unes après les autres en cessation de paiement. Les ventes en détresse et le rationnement du crédit étendent les difficultés aux entreprises prudentes. La crise devient alors systémique et seule l'intervention active des pouvoirs publics permet d'en sortir. Une grille de lecture dont on peut dire qu'elle a conservé toute son actualité. They don't know I do it for the culture, goddamn. They say I should watch the shit I post, oh goddamn. Say I'm turning big girls into hoes, oh goddamn. They say I get groupies at my shows, oh goddamn. All the rumors are true, yeah. What you heard, that's true, yeah. I fuck him and you, yeah. If you believe I do that, had to cut some hoes loose, yeah. Indie ain't no loose lips. Now them hoes tryna sue me. Bitch, I don't give two shits. All the rumors are true, yeah. I've been in the bamboo, yeah. Focused on this music. My ex nigga, he blew it. Last year I thought I would lose it. Reading shit on the internet. My smoothie cleanser, my diet. No, I ain't fucked Drake yet. Spending all your time trying to break a woman down. Shit is going on, baby, take a look around. If you thought that I was ratchet with my ass hanging out, just wait until the summer when they let me out the house, bitch.
Entendez-vous l'écho s'achève avec Rumors, le dernier titre de la rappeuse américaine Lizzo avec Cardi B. Demain, alors que le Kazakhstan traverse une grave crise politique, nous reviendrons sur l'histoire économique et les enjeux contemporains de cet immense pays d'Asie centrale. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Big girl Gucci. Last time I got freaky, the FCC sued me. But I'ma keep doing what I wanna do. Cause all the rumors are true. Yeah, they hate it on me. Et puis un dernier mot pour vous dire merci du fond du cœur pour votre fidélité. Vous êtes 242 000 à nous écouter chaque jour à 14h. C'est 90 000 de plus que l'an dernier. Un immense merci à vous et un très grand bravo à l'équipe si talentueuse d'Entendez-vous l'écho, les indispensables Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Somaya Dabesh et Théo Jean Gréco.
France Culture, l'esprit d'ouverture.